soir, j'aimerais vous proposer une réflexion sur la confiance. La confiance est une des cinq facultés. Et ces cinq facultés, lorsqu'elles sont cultivées, deviennent des pouvoirs. Ces cinq facultés, c'est la confiance, c'est la pleine conscience, la concentration, l'énergie et la sagesse. Ce sont des compétences de la nature humaine qui, quand elles sont développées, deviennent des pouvoirs dans le sens, on pourrait dire, des boucliers ou des ancrages ou des liens qui font que nous ne pouvons plus nous sentir isolés, abattu, confus. Dévalorisé. Révolté. Ça nous aide à traverser la vie qui n'est pas un long fleuve tranquille. Et la pleine conscience, pareil, au début elle est fragile, toute petite, et ça devient un pouvoir. La concentration aussi. L'énergie, au début la méditation nous fatigue. Et peu à peu, la méditation dynamise. Et la sagesse, même si nous l'avons déjà entièrement parfaite à l'intérieur, nous n'avons pas encore accès. Parce qu'elle est comme enrobée dans toutes ces couches d'identification au moi, de peur, d'égocentrisme, le moi ne sait pas, il ne sait pas qu'il peut lâcher ses boucliers. Et c'est ça que nous avons tranquillement à lui apprendre. Tu peux lâcher. Mais il ne peut pas lâcher d'un coup parce que ce serait trop puissant. C'est Nelson Mandela qui dit, ce qui nous fait peur, c'est notre lumière intérieure. Il y a la confiance ordinaire, un état de confiance. Nous sommes en confiance avec certaines personnes, certaines situations. Nous sommes en confiance avec le Dharma, avec nos maîtres, avec certains groupes humains plus que d'autres, avec certaines habiletés qui sont les nôtres, nous sommes en confiance, certaines compétences. Et c'est précieux de sentir que nous avons une confiance dans ce monde qui crée un état de détente, d'assurance, joie. Mais c'est conditionné. si la personne change, si la situation change, si nous perdons notre habileté parce que nous perdons certains de nos sens. C'est incroyable ce que nous pensons que tous nos sens sont là, comme s'ils devaient être là. Mais nous pouvons avoir beaucoup de gratitude pour voir. Il y a des gens qui perdent la vue, qui perdent l'ouïe. Nous avons confiance dans nos sens, mais ils sont conditionnés. Et lorsque ça change, eh bien, arrive le doute, la peur, la réactivité. Et le mental s'emballe, le mental s'active. Il crée des scénarios pour désespérément essayer de retrouver cette confiance. Et alors nous avons tendance à, lorsque nous sommes accablés, tristes, que ça ne va pas. Et dans une retraite, on traverse des moments comme ça. Même si la situation est parfaite, nous traversons l'enfer, des fois. C'est ça l'impermanence. Une retraite, c'est là pour nous faire voir combien les choses changent et combien nous croyons à ce monde des perceptions. Quand tout va bien, vaguement, on croit que ça va durer. Et quand tout va mal, oh là là, toute la retraite comme ça. Donc nous avons tendance à nous rassurer, mais non. C'est bien de se rassurer, mais ce n'est pas ça qui va, comme dit le Bouddha, couper la souffrance à la racine. Nous ne nous rassurons pas trop. Osons voir clairement quelle est l'expérience maintenant. Et allons dans quelque chose qui est beaucoup plus radical. C'est le Bouddha qui dit « Il y a un abîme entre souffrir et vouloir la paix, et voir la souffrance et rester dans la paix. » La souffrance, c'est la cuillère de sel. Et si nous voulons la paix, c'est comme si nous mettons la cuillère de sel dans un verre d'eau. Et si la conscience est ouverte et que la cuillère de sel arrive, que nous la mettons dans l'océan de la conscience ne sent rien. Elle ne va pas faire une histoire. Donc, peu à peu, nous arrêtons de nous consoler, nous rassurer. Et puis nous disons oui, bonne nouvelle quand le doute et la peur arrivent. Nous commençons à nous approcher de Dukkha et mon maître. Ça n'est pas une idée comme ça en l'air, mais ça devient du réel de l'instant. Et alors nous employons les outils qui sont les nôtres et peu à peu la faculté devient pouvoir. Alors, comment développer cette confiance ou cette foi qui n'est pas une foi aveugle? C'est pas oh, le dharma va me sauver, je prends refuge, tout va bien aller. Nous pouvons prendre refuge comme moyen habile. C'est précieux. Mais ce qui est surtout précieux, c'est que je pense à prendre refuge maintenant. Et qu'au niveau énergétique, maintenant, quelque chose change. Comment cultiver la confiance? La première chose, c'est quoi? C'est quoi la première chose pour vous?
Savoir que tout change. Hein.
Connaître Anicca.
Avoir la foi. Y croire. Avoir la foi.
Oui, mais c'est quoi avoir la foi pour toi?
Ben, du coup, si on prend le sens qu'on, qu'on est toujours guidé et enveloppé, on peut garder, comme tu disais, on peut garder la confiance.
Oui, mettre la conscience en priorité. C'est-à-dire, au lieu de focaliser sur moi, ouvrir, sentir l'espace, le silence, et combien le dharma nous enveloppe. C'est ça que tu veux dire? Quoi d'autre?
Moi, quand j'ai besoin de confiance, et que je le vois, que je suis dans le doute ou la peur, je fais un effort de lâcher. Là, comme ça, je laisse aller et je fais confiance. Quoi.
C'est difficile de juste lâcher sans rien mettre à la place. Tu mets quelque chose à la place?
C'est plutôt l'abandon, c'est pas.
Ok. Voilà. L'abandon.
L'abandon de la peur. Donc, voilà, ce qui arrivera, arrivera.
Des fois, ça marche bien quand on pense à abandonner. Moi, je vous conseille d'abord quelque chose de beaucoup plus simple, hyper simple.
Retour dans le corps.
Ouais, qui c'est qui a dit ça? Vous venez dans le corps. Et c'est pour ça que c'est important de s'habituer à être là avec le corps, parce que les cellules prennent l'habitude, elles digèrent. Et quand on en a besoin, ça vient. Et au lieu de partir dans le mental, si je peux lâcher, tout va bien, mais suivant la puissance du karma, c'est pas parce que je me dis lâche que ça lâche, quoi. Il faut remplacer tout ce contenu mental par quelque chose. Et la présence corporelle, c'est un outil précieux. Et nous ne pouvons pas avoir accès à cet outil directement quand nous en avons besoin. Il faut d'abord l'entraîner lorsque c'est neutre. Donc revenir au corps, et comme ça quand il y a le feu et que le mental s'active, j'évite d'y mettre du bois. Et bien sûr, après, il y a d'autres outils comme de mettre en conscience l'expérience lorsque je peux le faire sans trop identifier, de venir dans le psychocorporel. Très important ce psychocorporel, parce que c'est là que je vérifie la puissance de la conscience. Quand je sens que le fait de rester avec l'impact de l'émotion dans le corps permet le lâcher prise physiquement. Ça donne confiance énormément dans l'outil. Donc la pleine conscience, elle a besoin d'entraînement, et alors elle acquiert une stabilité. elle a besoin d'équanimité, nous habituer à mettre en lumière ou à valoriser pas seulement ce que nous aimons, mais tout. Et puis, elle a besoin de constance. Et la constance, c'est ce que nous développons lorsque nous nous souvenons d'être là entre les périodes d'exercice formel. Et elle a aussi besoin d'autre chose, c'est d'un petit clin d'œil au niveau du renoncement et du lâcher-prise. Je vous enjoins beaucoup à suivre l'horaire à la lettre. Plutôt que chaque fois que la cloche sonne et que c'est le moment d'aller marcher, pour avoir un thé, mais je vais me coucher un moment, je vais marcher où ? Non, stop. C'est extrêmement bénéfique parce que ça évite de toujours titiller le moi qui veut. Ok, le moi il veut, il veut toujours des trucs, le moi. Mais à quoi est-ce que je réponds ? Est-ce que je réponds au moi qui veut ou est-ce que je réponds au lâcher-prise du moi ? Et en tout cas, dans mon expérience, je me souviens dans les premières retraites, c'était tellement bon que j'ai plus besoin toujours de réfléchir à ce que je voulais faire. Tout était là pour moi. Tu vas t'asseoir, tu vas marcher, tu vas t'asseoir, tu vas marcher. Testez-le. Dans le quotidien, vous pouvez simplement... Les contacts, c'est pas mal pour le quotidien. C'était bien pour vous ? Vous l'avez fait ? Qui l'a fait ? Vous pouvez aussi juste nommer tout ce que vous faites. Je suis en train de parler. Je suis en train de bouger mes mains. Je suis en train de me remettre en arrière. C'est une méthode proposée par Mahasi Sayadaw, qui est un moine birman. Et c'est très efficace. C'est Nicolas qui m'a rappelé l'autre jour. Mais j'ai vécu des retraites où j'employais beaucoup ça. Et ça active et la concentration et la pleine conscience d'une manière très bénéfique. Donc la confiance. Et alors, peu à peu, nous acceptons les limites du moi. Nous acceptons les choses telles qu'elles sont quand il y a ces choses un peu moins glorieuses, que je me trouve un peu prétentieuse ou au contraire un peu lâche ou bien un peu bête ou bien... Je ne sais pas qu'est-ce que vous trouvez quand c'est pas très glorieux. J'ai un peu honte. J'accepte de voir le moi à confiance. Il est en paix avec ses limites. Il voit aussi le contraire, si possible avec équanimité. Donc la question c'est, qu'est-ce que je mets en priorité ? Et où est-ce que je mets ma confiance ? Et nous pouvons voir combien nous avons peur de perdre. Peur. De perdre mes proches. J'ai peur de perdre la santé. J'ai peur de perdre la vie. J'ai peur de perdre mon auto. Peur de perdre. C'est terrible comme nous nous sentons propriétaires. Mon auto, moi ça m'arrive mon auto. Hein. On a un qui me passe devant, je sais pas, connard. On peut se pardonner. J'aurais pu vous lire ça. Ma place. Imaginez que ce soir il y a quelqu'un dans votre lit. C'est pire. C'est vrai. Invitez le Bouddha. Donc, mettre la confiance au bon endroit, c'est la mettre dans qui je suis vraiment en profondeur, dans ce qui est essentiel. Et peu à peu, par tout ce travail que nous faisons, nous nous sentons vraiment reliés. Le joyau intérieur trouve un lien concret avec l'infini ou la bonté cosmique. Et c'est la meilleure des nourritures. Et alors là, la confiance devient pouvoir, elle devient un pouvoir de lâcher prise, un pouvoir de non-violence. Et c'est essentiel de développer ça. C'est triste de voir ce qui se passe avec l'Ukraine. Ok, c'est beau d'accueillir les Ukrainiens, bien sûr, mais d'un autre côté, on vend des armes. C'est terrible. C'est l'aveuglement à l'état pur. Donc, lorsque nous nous sentons reliés, il y a l'abandon du moi. Et quand nous abandonnons le moi c'est quoi? Le moi c'est ce petit joyau, oui, mais c'est tout le reste. Hein, toute cette identification, nos opinions, l'attachement à nos valeurs, tous les traumas qui émergent. C'est aussi notre beauté, mais malheureusement nous y sommes attachés. Donc il y a un lâcher prise du moi et de tout ce qui est mauvais, et nous n'avons pas besoin d'abandonner ce qui est bénéfique à l'intérieur. Mais ce qui se passe quand la confiance devient pouvoir, c'est qu'il n'y a plus d'attachement. Je ne suis pas attachée ni à ma joie, ni à mes valeurs, ni à ma patience, ni à mon dharma. Ni même pas au Bouddha, parce que ça n'est plus nécessaire, puisque les choses sont, elles n'ont plus à être. L'espace et le silence, la conscience pure devient accessible. Je vous lis une petite parole que je ne sais bien sûr pas d'où je l'ai tirée, c'est pas du tout bien. En s'identifiant à l'espace de conscience, c'est possible de sentir l'anxiété et pourtant de ne pas être anxieux. Il y a un conflit sans fin entre juste être ici et notre addiction au faux confort et à la fausse sécurité de notre monde mental. Donc avec la confiance, on peut voir qu'il y a un retournement d'abord nous sommes dans la confiance ou le doute selon les expériences. Et peu à peu, il y a cette stabilité de la confiance qui fait que malgré l'impermanence, non seulement intérieure mais aussi extérieure, quelque chose reste là. Bien sûr, nous souffrons quand nous perdons, j'ai vu un film magnifique sur une journaliste genevoise qui s'appelle
Laurence Deonna.
Ouais, t'as vu le film?
Non.
Magnifique.
Laurence Deonna.
Et puis, à un moment donné, elle montre des photos des pays avant la guerre et après la guerre. Mais c'est juste... Oh, désolant. Désolant. Sanaa au Yémen. Mais un bijou. Quelle brutalité stupide. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Ce sera comme ça jusqu'à la nuit des temps. C'est pas là que je vais mettre mon refuge. Ou alors, je souffre beaucoup. Et ça n'est pas une souffrance utile. Le regret, l'engagement, oui. Donc, peu à peu, nous laissons parler le Dharma à l'intérieur et il est spacieux, ouvert, à l'écoute, bienfaisant et inébranlable. Je vais vous lire un petit poème soufi. J'ai demandé la force, la vie m'a donné des épreuves pour me rendre forte. J'ai demandé du courage, la vie m'a donné des dangers à vaincre. J'ai demandé la prospérité, la vie m'a donné un cerveau et des bras pour travailler. J'ai demandé des faveurs, la vie m'a donné des occasions. J'ai demandé de l'amour, la vie m'a donné des gens à aimer. J'ai demandé la sagesse. La vie m'a donné des problèmes à résoudre. Je n'ai rien reçu de ce que j'avais demandé. Mais la vie m'a donné tout ce dont j'avais besoin. Nous vivons dans une société de... capitaliste où l'avoir est essentiel, les assurances. La sécurité, les droits de l'homme. C'est quoi les droits de l'homme? On en revient des droits de l'homme. Mais pendant qu'on faisait toute cette histoire sur les droits de l'homme, on faisait quoi ailleurs? Joli. De voir. Et avoir ce regard de l'aigle qui voit la totalité. Je me souviens quand la guerre en Ukraine a commencé, j'ai eu peur. J'ai regardé une émission, je ne sais plus laquelle. Puis j'étais dans mon lit, j'avais peur. Je me suis dit, mais t'as peur. Ben ouais, peut-être la guerre viendra chez nous. T'as peur, tu fais quoi avec ça? C'était chou, je suis venue dans Anicca, l'impermanence, puis je me suis dit, ben bon, peut-être que ça va être détruit, mais une fois que c'est détruit, c'est tellement vite reconstruit. On reconstruit très vite. Allez regarder en Allemagne. On reconstruit très vite. Et on reconstruit, en fait, la... grande, ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, ça c'est mon opinion, hein, je veux dire. ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, où tout allait si bien chez nous, c'est parce qu'on avait eu un tel choc avec la Deuxième Guerre mondiale que les cellules avaient compris. Puis après, ça s'oublie. C'est comme si on avait besoin à nouveau d'un petit choc. Dans nos vies, c'est un peu pareil, hein. On se marie, tout va bien, ça va bien, super. Puis après, il faut un choc tout d'un coup. Parce que, je ne sais pas pourquoi, parce que je crois que c'est simplement le besoin de l'humanité de vivre l'impermanence. Je me souviens dans une retraite, c'était le nirvana, tout allait, c'était super, puis ça durait. Puis un beau jour, j'étais assise là, je me suis dit, puis quoi? Oh. Comme si j'avais besoin d'autre chose. L'impermanence, c'est comme un besoin de l'homme. Nous nous accrochons à nos valeurs, nous avons peur de perdre, mais il ne faut pas oublier que nous allons tout perdre, tous. Nous allons tous tout perdre. Important de se souvenir. Alors autant perdre déjà maintenant. Comme ça on ne peut plus rien nous enlever. Et la confiance, c'est ça. C'est accepter de tout perdre maintenant. Je vous lis la parole, cette petite parole d'Ajahn Chah. C'est dans un livre d'Ajahn Chah, je crois. Si vous vous êtes bien entraîné, vous ne devriez pas avoir peur quand vous tombez malade ou être bouleversé quand quelqu'un meurt. Si vous devez aller à l'hôpital, ayez l'intention dans votre esprit que si ça va mieux, c'est bien. Et que si vous devez mourir, c'est bien aussi. Si un docteur me disait, vous avez un cancer, vous allez mourir dans quelques mois, je lui dirais, ok, mais n'oubliez pas, vous aussi vous allez mourir. C'est juste la question de savoir qui va mourir en premier. Les docteurs ne vont pas nous guérir de la mort. Seul le Bouddha peut le faire. Pourquoi ne pas employer le remède du Bouddha? Alors, employons le remède du Bouddha maintenant. Comment être libre maintenant? Pas demain, pas parce que quand je serai mieux, ou bien quand les autres seront mieux, quand il n'y aura personne dans mon lit. La confiance, c'est pas être infaillible, être en sécurité, avoir des assurances. C'est être à chaque instant prêt à accueillir les choses telles qu'elles sont. Et être prudent avec notre mental, parce que c'est notre mental qui crée la plus grande partie de la souffrance. Je ne sais plus qui c'est qui disait, dans ma vie, il m'est arrivé énormément de problèmes et de malchance. Mais la plupart d'entre eux ne sont jamais arrivés. J'ai eu énormément de problèmes et de malchance. La plupart d'entre eux ne sont jamais arrivés. Et puis Etier Lezoum, qui a vécu des choses très dures pendant la guerre, qui était dans un camp de concentration, elle dit, ce qui est redoutable, ça n'est pas la souffrance. Quand elle est là, on la porte sur le dos. On a énormément de ressources pour agir. Mais ce dont il faut se méfier, c'est de la représentation de la souffrance. Nous imaginons, et ça nous tue. Comme dit Ajahn Sumedho, on a peur de la mort, mais on est déjà mort de peur de mourir. Faire attention, de ne pas laisser. Et pour ça, la société ne nous aide tellement pas. Et les nous-groupes qui commencent à avoir peur en tant que nous-groupes, c'est redoutable. Donc, lorsque nous apprenons à voir un peu plus loin, plus haut, plus vaste que le temps et le lieu et la personnalité, alors le cœur apprend qu'il y a des visiteurs. Il y a des visiteurs qui sont des défis parfois, des anges blancs, dorés parfois, et parfois des anges noirs, mais ce sont quand même des anges. Parce qu'ils nous fortifient, ils nous permettent de développer la vraie confiance. J'aimerais vous lire une parole de Maître Eckhart, qui est un mystique chrétien du Moyen-Âge, qui est un des grands mystiques chrétiens qui voit Dieu comme étant le détachement. Et il dit, même si tu ne le sais pas et si tu en juges autrement, toute inquiétude qui s'élève en toi, à ton insu ou non, ne provient que de ta volonté propre. Comprenons-nous bien. Fuir ceci, rechercher cela, éviter tels endroits ou tels gens ou telle manière d'être, ou bien encore la foule ou le travail. Ce n'est pas dans les choses ou les manières d'être qu'est la cause de tes difficultés. N'accuse que toi-même. C'est toi qui te comportes de la mauvaise façon à leur égard. Commence d'abord en toi et laisse-toi. Laisse-toi, abandonne-toi et laisse le dharma ou l'espace, le silence, le ciel bleu, le son des oiseaux être prioritaire à cette complexité du monde des perceptions. Et c'est très bon de... je vois dans ma pratique comment cette impermanence qui fait que, particulièrement dans une retraite, quand on est très sensible, ces enfers émergent, et puis ces paradis. Peu à peu, ces vagues qui étaient comme ça, waouh, ça devient comme ça, puis après comme ça, puis après, coucou, quoi. Et nous, l'aveuglement fait toujours que nous croyons que la libération, c'est un moi parfait. C'est un moi qui n'aurait plus de trauma, plus de peur, plus de haine, plus d'obstination, plus de doute. Non, la libération c'est maintenant avec ce qui est là. Et finalement, étant donné que la conscience est disponible, que cette manière de se relier est possible, même la monstre peur, Elle tombe dans rien, hein, puisqu'il n'y a rien pour la prendre. Mais nous avons cette mauvaise habitude de ne pas savoir nous laisser nous-mêmes. Je vais finir avec une parole du Dhammapada. Il y a ceux qui découvrent qu'ils peuvent laisser derrière eux les réactions confuses et demeurer patients, comme la terre face à la colère, ancrés comme un pylône, tranquille comme un étang par un beau jour de printemps. Alors, je vous propose qu'on mette le printemps dans nos cœurs. printemps du corps maintenant. Commencez maintenant. Sentez la sagesse à l'intérieur, le joyau. Et voyez si vous pouvez juste tirer un fil avec l'infini. Et être en même temps à l'intérieur et à l'extérieur. Avec la conscience.